Soyez les bienvenus avec les Lacato Boudadi, Agnès Hurstel, Daniel Morin.
Bonjour monsieur.
Albert Algou.
Bonjour.
Tanguy Bassureau sera là tout à l'heure. Et notre invité est Dave.
Bravo.
Dave. C'est le remix. C'est dans l'original. En hommage à notre Vanina qui programme cette émission, évidemment.
Oui, obligé de baiser la Vanina.
Pardon ?
Mais je l'embrasse. Des
baisers. Bisous, 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 bisous.
C'est des bisous à appuyés, ce sont des baisers.
Mais c'est son heure, Nagui, là.
Qu'est-ce qu'il y a, Dave ?
Non, des baisers Vanina, c'est un rêve.
Eh ben voilà.
La mienne, elle est morte, hélas.
Oh non !
C'est notre pratique.
Mais si la nécrophile, on peut le faire quand même.
Oh non !
Si, c'est notre pratique. C'est vrai, la raison, faut être ouvert.
Ça y est, on est parti dans le livre de recettes, déjà.
Tais-toi, Roberta.
Pardon.
Ceci dit, dans le livre de recettes, il y a des animaux morts. Vous n'êtes pas du tout végétarien, vous n'êtes pas du tout végan, contrairement à Patrick.
C'est juste, il n'est pas végan, il est végétarien.
Il est végétarien. Ouais. Cuisinez-moi, le livre de recettes de Dave, une idée extrêmement originale. D'ailleurs, je me demande si c'est vous qui l'avez eu. Racontez votre...
Si, ça commence bien aussi.
Racontez.
Non, mais il sait recevoir. Hein.
Racontez votre vie au travers des recettes ou racontez des recettes au travers de votre vie. Je ne sais pas qui a commencé, comment c'est venu.
Je ne me souviens plus qui m'a demandé de chanter Vanina non plus. Non, c'est en fait... L'histoire est assez amusante parce que j'aime bien citer le créateur des éditions Cherche Midi, qui s'appelle Philippe Héraclès, et qui était un homme vraiment formidable.
Très sympa.
Et tu connais aussi, ouais.
Oui.
Et il m'avait demandé de faire un livre sur un sujet totalement différent. J'ai dit oui parce qu'il y avait un chèque, et puis après j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Je lui ai proposé de rendre le chèque, évidemment, mais garde-le, un jour on aura une idée. Et c'est là où moi je l'ai dit.
Quelle élégance.
Un an après, en gros, j'ai peut-être une idée, j'aimerais bien faire un livre de cuisine parce que je fais de la cuisine depuis 50 ans. Et c'est là où son éditrice, qui s'appelle Paume, m'a dit: et si on racontait ta vie en même temps. Mais moi, j'ai déjà fait 3 bio, auto-bio. Donc, ça devient quand même très prétentieux parce que j'ai qu'une vie.
Oui, mais justement, c'est votre vie vue par le
prisme. Voilà, de notre angle.
Exactement.
Alors derrière.
Et d'ailleurs,
la Madeleine de Proust.
Vous ouvrez le livre avec ces paroles.
On oublie, et puis un jour, il suffit d'un parfum.
C'est exactement ça. On oublie, il suffit d'un parfum, puisque la cuisine, pourvu que la cuisine soit faite d'odeur.
Oui, c'est des associations à olfactif, pour parler de manière un peu pédante. Tout à fait.
Non, bah, olfactif, ici, on arrive à comprendre. Vous avez fait quelle radio avant?
Moi, quand je parle à des filles qui me diraient que vous êtes gérontophile, me regardent les grands yeux, pensent que c'est une maladie.
Cet extrait faisant partie de la chanson Du côté de chez Swann, qui revient souvent d'ailleurs. Elle revient souvent, cette chanson, dans les textes ou les références à Proust, à la littérature aussi, extrêmement présent dans ce livre. C'est malin parce qu'on ne peut lire que les recettes si on a envie de préparer de la cuisine. On peut lire que votre biographie si on a envie de s'intéresser, en tout cas, à l'importance de votre papa ou de votre maman qui ont été les premiers à vous faire découvrir les goûts, le plaisir du vin, du bon vin.
Ouais,
c'était le cas de votre papa.
C'était rare à l'époque aux Pays-Bas, il n'y avait pas grand monde qui buvait du vin. Hein.
Et de découvrir la cuisine, d'imiter maman à faire la cuisine. Et vous faites votre propre pain. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais savoir si tout le monde peut répondre à l'interro concernant Dave et de finir cette phrase. Il aime à répéter qu'à propos de la cuisine, passé un certain âge, le culinaire remplace quoi ?
Le cul.
L'amour.
Le cul.
Exactement. Le culinaire remplace le cul. Ouais, non, ça fait partie des jeux de mots de Dave, ça. Ouais. Oui,
c'est même pas de moi. C'est une des filles qui m'a, enfin, des filles 4 ans de plus que moi, mais que Françoise Hardy a baptisée Suzy la cochonne.
Elle est dans le livre, vous lui rendez
hommage parce qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas reconnu les recettes d'elle, et parce que j'ai fait, comme on dit dans les The Voice et autres émissions de ce genre, je me suis approprié ces recettes.
Alors, Suzy est une amie de Françoise Hardy qui reçoit chez elle ou dans un restaurant?
Chez elle.
Chez elle, à la maison, le tout Paris, enfin, ou même pas le tout Paris, le tout monde, showbiz,
en tout cas. Tout ce qui est jeune et beau, oui, c'est pour ça qu'on y va.
Surnommée Suzy la cochonne parce qu'elle cuit bien le cochon, c'est ça?
Entre autres.
Peut-être aussi parce qu'il y a deux, trois poils de chien qui traînent dans la bouffe qu'elle fait.
Mais ça va pas.
Ben, c'est très bon.
Là, vous voulez vous fâcher avec elle?
Ça dit, une chinoise. Je fais remarquer, j'ai dit chien.
Ouais, c'est ça.
qu'est-ce qui est resté intact chez Dave depuis 50 ans?
Sa mèche.
Sa voix.
Les oui. Cheveux. Oh, le carton plein. Ah,
hein. Non, non, mais moi je suis à Donf sur Dave.
Hein. Ouais, ouais.
Non, mais c'est génial. Ça.
La voix. Ce qui n'est pas le cas, il faut le préciser, mais ça c'est la,
des noms,
c'est
des noms.
La nature. Non, non, mais si, je vais vous donner un nom, le premier qui me vient à l'esprit, Sting, avec qui on a fait un taratata il n'y a pas longtemps. Je lui ai demandé de chanter une chanson. Alors, pardon, je ne l'ai plus en tête. Mais il m'a dit non, maintenant, elle est trop haute. La tessiture ne me permet plus de chanter dans la tonalité de cette chanson. C'est trop haut.
Johnny,
c'était Russian. Voilà, Russian.
Ah, Russian, oui. Mais Johnny m'a dit la même chose. Johnny, quand j'étais venu, Johnny Hallyday. Parce qu'il y a une chanson de lui que j'adore, qui s'appelle Entre mes mains, ouais, dans laquelle il y a un petit moment de fausset, de falsette.
Ouais.
Entre. Et je dis pourquoi tu ne le fais plus? Il me dit je ne peux plus. Donc, j'ai trouvé ça vraiment mignon.
Et vous avez cette chance mécanique d'avoir la même voix, de pouvoir tout chanter.
Oui, c'est dingue. Mais ça, c'est comme les cheveux, quoi. C'est dans l'ADN, on n'y a plus rien.
Est-ce qu'il n'y a pas l'hygiène de vie aussi qui doit jouer un peu? Non?
Je pense pas, honnêtement. Il y a des chanteurs dans le ténor lyrique. Il y a un mec comme Björling qui est un ténor scandinave et qui pouvait boire.
Enfin, non, mais je parlais de fumer, moi.
C'est sûr que ça fait baisser la voix aussi. Moi, en fait, j'ai jamais vraiment fumé. Je fumais parce que quand elle est en boîte et que tu fumais pas, tu puvais pareil. Donc autant fumer.
Ouais, c'est vrai, autant participer.
C'est ça, ouais. Le tabagisme passif à l'époque. Dave parle 6 langues. Mais je vous demande de deviner la 6e. Donc c'est français, anglais, néerlandais, les deux autres.
Italien.
Chinois.
La langue de vipère. La langue
non, je demandais. Non, ok, d'accord. Il m'a brûlé mon effet. Je vous demandais quelles étaient les vraies langues. Les vraies langues.
Moi, je connais pas les 6e.
Bah, si, c'est la langue de Hyper.
Non,
ça.
Je parle 5 langues. C'est faux.
C'est donc, ce que je dis. Je vous demandais quelles étaient les 5 langues que vous parliez.
Mais français, anglais, allemand, italien et hollandais.
Voilà, merci. Et ma question était donc quelle est la 6e? Et la réponse, il l'a donnée, langue de Hyper. Ok, c'est pas grave.
On passe et c'est à fini d'ailleurs. J'ai complètement arrêté depuis que j'ai. Si, enfin, je m'efforce. Quand je recevais des artistes dans l'émission que j'ai eu le plaisir avant.
Le dimanche, sur France 3.
Oui, avant Bouchard. Donc là, que la directrice a décidé que j'étais trop blanc et trop vieux. et j'adorais faire ça parce que je fais tous ces artistes, mais tu ne peux pas du mal des gens que tu vas recevoir.
Non.
En tout cas, moi, je ne peux pas.
Ben non.
Mais c'était de l'humour aussi.
Et vous... c'était que de l'humour. Je suis méchant avec bon fond. Le contraire de toi.
Ce qui a vu être...
Allez hop, ça se fait.
Non, mais vous... enfin, c'est encore, c'est une vanne.
Non, mais un invité qui dit la vérité, pour une fois,
non,
c'est
mais
quand
vous
même
aviez parlé, je me souviens, c'est la voix d'Enrico Macias. Et vous aviez dit, mais alors, quelle horreur! Enfin, vous aviez été terrible! Et est-ce qu'il vous en a voulu?
Ah, bah, je me souviens d'une émission que j'ai co-présentée avec Marc-Olivier Fogel pour les fêtes, et on allait chercher sur une espèce de camion plateforme télé, les gens, et lui, il était à l'opéra, et quand il a su qu'il était là, il a dit, je vais pas. Marc a dit, moi, tant pis. Et moi, je dis, c'est trop con. Donc, j'ai couru vers l'opéra, il m'a vu arriver en courant, et il est parti en courant dans l'autre sens. Et je l'ai rattrapé. Et il m'a dit, bon, mais je viens, mais tu dis rien. Depuis, on a fait la paix.
Ah, ok, tant mieux. Question concernant Dave, mais au cinéma, cette fois-ci, il a failli tourner un film aux côtés de Daniel Auteuil, son grand ami. Ouais. Quel film?
Le Bossu.
Non.
Ah là là, je sais pas.
Jean Florette.
Ouais, mais l'on source, non. Quel film?
Alors, je vais vous aider, c'est un film dans lequel...
C'est un autre chanteur qui a pris ma place, en fait.
Voilà.
Ça, c'est intéressant.
Voilà. C'est un autre chanteur qui l'a remplacé.
Michel.
Non.
Enfin, qui a pris la place de Daniel, pour être très précis.
Daniel n'a pas joué dans ce film.
Non.
En fait, alors, on recommence. Daniel Auteuil a proposé au réalisateur qui lui demandait de jouer. Il lui a dit, voilà, pour jouer le rôle de mon frère dans le film, je pense à... Là, je vous donne un indice, parce qu'il y a un frère qui a un rôle très important dans la vie de ce personnage.
Van Gogh.
Bon, bah ouais, bah,
c'était trop, peut-être.
Frère hollandais, c'était trop.
C'était trop.
Exactement, vous avez failli jouer dans le Piala.
Ça a duré environ 2 heures. C'est-à-dire que Piala nous a invités à dîner. Et puis il a dit, mais c'est une formidable idée, parce que Piala aime bien les chanteurs. Il était bluffé par les chanteurs. Mmh. Et il trouvait ça une formidable idée. Et puis il a dit, d'accord, on va faire les essais de tenues, etc. Dany et moi, nous sommes partis comme dans un pub de Peter Stuyvesant, même dans le main hurlant de joie sur la plage. Et je suis repassé devant avec ma voiture. Et là, il nous a arrêtés. C'était un petit truc. On a dit, finalement, non. Je suis sûr que c'est comme ça que ça s'est passé.
Et Jacques Dutronc a eu le rôle.
Et c'est Jacques Dutronc, oui.
Un jour, Dave a croisé Lino Ventura dans un lieu où il n'était pas très à l'aise.
Un backroom?
Non.
Oh. Ah, je sais pas.
Lino peut... Ventura.
Bah alors.
Lino Ventura. Il t'aurait fait Dave.
Non. Dave, ça me choque pas. Mais Lino Ventura, dans ses contrats, il était écrit qu'il ne devait pas embrasser les autres comédiennes. Donc t'imagines bien qu'il allait pas.
Ouais, mais ça, c'est les contrats. Il y a la vie privée.
Dans une boutique de sous-vêtements. Dans un cinéma.
Où il était gêné dans un restaurant.
Dans une boîte de nuit.
Non.
Une boîte de jour.
Avec quelqu'un
chez le médecin, à la pharmacie,
chez le
l'hôpital,
chez le vétérinaire,
chez le psy.
Alors c'est pas médical,
à l'église.
C'est plutôt la place dans la société. C'est plutôt
à l'église,
presque professionnel.
Chez le notaire, ah.
Non.
Chez un avocat.
Au procès, à l'avocat, au tribunal.
Non.
Commissariat de police.
Chez une maison de disques qui n'était pas la sienne.
Non, mais c'est l'idée par rapport au travail.
Un agent.
Lino Ventura n'était pas chanteur.
Ouais,
hein,
oui,
donc...
c'est vrai.
Oh, t'as pas écouté son dernier album.
Elle est jeune.
J'étais sur Dave.
Chez un agent, non.
Non.
Notre...
Ah, c'est pas. J'ai pas. Un agent, c'est une agence plutôt. Une...
Mais ouais. Quelle agence de pub?
Une agence de mannequin.
Non.
Une agence de mannequin.
Une agence d'acteur.
Une agence patrimoniale. Une agence
de détective.
Immobilière.
Non.
Agence quoi?
Agence touristique.
Non. L'agence.
Un commissariat de police.
On a honte de
son
matrimonial.
Pôle emploi.
Oui.
Ah, oui. Je pense que je venais chercher quelqu'un parce que je ne vais pas à Pôle emploi.
C'était hyper dur.
Bah, pourquoi pas vous... Non, mais vous êtes même dit, tiens, si Lino Ventura lui-même va à la NPE, il n'y a pas de raison que moi non plus, je n'avais pas pointé.
Ouais, exactement. C'est Marie-Paul Belle, la parisienne que vous connaissez, qui m'a dit, mais enfin, tu ne fais pas ça, toi, mais t'es fou. Des jours que tu ne travailles pas, tu peux avoir jusqu'à 500 francs, etc. Mm. Et en effet, je n'ai pas eu souvent touché, heureusement pour moi, mais c'est vrai que j'étais surpris de le voir lui. Moi, je pense qu'il venait chercher une copine.
D'accord, on va dire ça comme ça.
Ou qu'il allait casser la gueule à quelqu'un.
Mais s'il travaille pas, il a le droit, il avait le droit totalement d'aller pointer. C'est le principe de l'intermittence du spectacle. Heureusement qu'il protège les conditions de ceux qui ont cette condition ou pas.
Statut.
Non, ce statut.
Ceux qui ont faim.
Oui, ou ceux qui ont faim. Non, mais c'est vrai, mais c'est une particularité française, il faut la préserver. Et à toutes les mauvaises langues qui sont déjà en train de tweeter, évidemment, il parle pour lui, non. Je ne suis pas intermittent du spectacle, mais en tout cas, sans les intermittents du spectacle, aucune de ces émissions de radio, de télévision, de spectacle, de cinéma ou de théâtre ne serait possible en France. Reparlons donc de ce livre que
pas
vous...
Pas encore une question, parce que moi j'ai mis 3 points, je voulais bien mettre à 4e.
Non, on va parler du livre de cuisine maintenant. Cuisinez-moi. En fait, vous cuisinez tout seul, c'est-à-dire vous confier, vous avouer des choses. Est-ce qu'il y a des choses écrites dans le livre? Parce que je n'ai pas lu toutes les bios que vous aviez faites. Est-ce qu'il y a des choses que vous dites pour la première fois dans ce livre?
J'ai l'impression, mais même moi, je ne le sais pas. Parce que
parce qu'il y a la fugue à 14 ans, vous en avez déjà parlé?
Pour la Corse, ouais.
Honnêtement, je ne me souviens pas.
Vous savez pas?
Non, je voudrais que je relis mes livres.
Bon, ouais, vous demandez à celui qui les a écrits.
Oui, comme un homme politique. Ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas lu non plus. C'est terrible.
Bon, en tout cas, vous racontez des choses assez bluffantes, assez surprenantes. Et systématiquement, d'abord, il y a beaucoup de voyages aussi dans votre vie, et de ces voyages et de ces aventures naissent soit des recettes, soit des goûts, des odeurs, des parfums.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est venu vraiment tout seul, parce que moi je vois des gens qui viennent à Paris, qui achètent un petit tour Eiffel, ce que je comprends complètement, c'est des souvenirs, tandis que moi quand je vais, je sais pas, au hasard à Belém au Brésil, je vais aller sur le marché acheter un épice, parce qu'après quand tu fais la cuisine chez toi, tu es de retour à Belém. Mm-hmm.
C'est
encore olfactif, et c'est ça qui est formidable.
Moi j'achète des farines, c'est le parfum qui aide, c'est ça.
Voilà. Et il y a, je sais pas, le marché de Port-Louis à l'île Maurice, il y a plein de trucs à Vaudrizac qui se vendent, ça marche pas du tout, mais j'ai acheté quand même.
Qu'est-ce qui vous reste de la Hollande? Il y a quelques recettes, en tout cas, qui sont nées, mais vous êtes, je trouve, plus italien dans vos recettes, très, très huile d'olive, en tout cas, d'utilisation, que hollandais.
Mais
le beurre.
Ou thaï, même. Il y a pas mal de choses thaï.
Oui, et puis indonésien, parce que l'Indonésie est un peu notre Algérie à nous autres Hollandais, parce que je suis toujours néerlandais de nationalité. Et c'est vrai que de la Hollande, je dirais, pour citer encore Van Gogh, c'est les pommes de terre. Nous sommes des mangeurs de pommes de terre. Et c'est vrai que, moi, je me souviens de la première fois que quelqu'un m'a envoyé manger un steak au poivre dans une petite rue à Paris, pour Rugy le Cœur. Il y avait donc ce steak au poivre qui était tombé par terre. Au poivre gris, j'insiste pour les cuisiniers, mais ne le faites pas au poivre vert, c'est pas bon. Et il y avait des pommes de terre avec. Mais moi, je demandais les légumes. Parce qu'aux Pays-Bas, les pommes de terre n'est pas un légume. Les pommes de terre, elle a toujours, c'est comme ici, le pain. Et les légumes, vous avez des légumes? Je dis non, j'ai pas de légumes. Et là, il m'a amené les haricots verts et j'ai compris qu'en France, une pomme de terre est un légume.
Le pain, justement, c'est l'une des découvertes que vous avez faites en France au point de vouloir absolument faire votre propre pain?
Ah, je fais mon pain depuis plusieurs décennies, oui. J'adore une nouvelle recette que je fais depuis
2-3 ans maintenant que du pain irlandais, qui s'appelle Irlandais Provençal dans le livre, parce qu'il se met deux poignées de romarin. Mais c'est génial, ce pain-là, parce qu'on n'a pas besoin de bosser toute la journée. C'est-à-dire qu'on met les ingrédients ensemble, 500 grammes de farine, 40 centilitres. Tiens, pour ceux qui achètent le
livre. Attendez, pas si vite, pas si vite.
Trop vite.
Pas n'importe quelle farine, non ouais. plus.
Ah, mais il faut bien choisir. Des évidemment, 60, il faut prendre du 65, parce que vous savez, les farines sont plus ou moins raffinées, et plus
parce que la farine de boulanger n'est pas la même que celle dont on se sert à la maison.
On peut prendre du bise, on le trouve maintenant dans toutes les grandes surfaces. Et puis d'accord. le lait fermenté, on le trouve grâce aux Arabes d'ailleurs, parce qu'avant on ne le trouvait pas. J'étais l'autre jour à la foire de Brive, il n'y a pas longtemps, et les gens de Brive ne connaissaient pas le lait fermenté encore. Je me dis, vous en trouvez partout. Et vous mettez ça dans le pain, ça fait fermenter évidemment la farine.
Et il y a le bicarbonate aussi.
Et une cuillère de bicarbonate de soude, une cuillère de sel. Absolument.
Ça c'est quoi? C'est pour la digestion le bicarbonate?
Pardon?
Pour lever?
Oui, évidemment. Et non, mais ce qu'il faut avec ce pain, on met tout ça ensemble. On les met au four, et ça, c'est pas comme un pain traditionnel qu'il faut pétrir, repétrir. J'adore pétrir. C'est un peu comme toucher les seins des filles, c'est très agréable.
Toujours, hein.
Enfin, ça dépend toujours, des seins, mais
c'est ça. Oui, c'est ça, hein.
Bah, vous en parlez justement de vos premières fois.
Oui, mais c'est pas très culinaire. C'est non, plus, c'est plus que culinaire.
Bah, c'est intimement lié. Ah, c'est dans c'était... la gourmandise, en fait. Ouais. En
elle, avait 30 ans, vous en avez 14 ou 16.
C'est une vieille, ouais. Quand t'as 14 ans, c'est une vieille.
Oui. Oui, elle et vous était, étiez en train de préparer à cuisiner, en plus à manger.
J'étais en train de faire cuire un poulet al diavolo et elle m'a abordé. J'étais sûrement sexy à l'époque, je m'en souviens pas bien. En tout cas, j'étais jeune et elle, c'est un professionnel de Brescia. Spécialiste de culatone, il faut parler italien pour comprendre. Et elle m'a tout appris. C'était un formidable souvenir, mais elle voulait pas que je lui dise tous ses seins. Parce qu'elle est en vacances. C'est
ah,
bizarre.
Je comprends.
Hein. Ah, bah oui.
Oui, mais c'était gratuit en plus.
Vous voulez faire ça? Ah, bah, heureusement bon. Que c'était gravier quand même. Oui.
C'était bon. Les amis sont présents. La cuisine et la vie, l'un des points communs, c'est le partage aussi. C'est pas quelque chose qu'on fait forcément tout seul dans son coin. On aime partager, avoir le regard de l'autre, le goût, et éveiller peut-être des plaisirs chez les autres aussi.
Ah, mais complètement. Il y a même une recette assez simple d'une courgette qu'on coupe. Qu'on fait cuire en entier et puis après
sans la peler,
sans la peler,
sans la peler, la courgette à la Paolo,
exactement,
à la Paolo. Et Paolo c'est un ami brésilien qui est hélas mort et ça me fait très
15, elle est très simple, c'est 15 minutes de préparation de la courgette, après on la coupe en deux, filet d'huile d'olive, un peu
de l'estragon, du basilic.
Mais il y a quand même du végétarien.
Oui, non, il y a des recettes avec l'aubergine aussi, aubergine et sauce tomate, enfin non, il y a des choses avec ça. Et les olives noires, vous insistez sur le fait que les olives doivent être noires et pas hautes.
C'est mieux, c'est question de goût.
Et vous changez pas mal de choses dans les recettes aussi. Si vous n'aimez pas les fèves ou les haricots blancs, vous les
Moi, ce que j'aime pas, donc je pense. Puis moi, j'adore aussi le crumble salé, quoi, un mélange de farine et de parmesan avec de l'huile d'olive qu'on met sous le grill, c'est à tomber par terre. Mm-hmm. Ah non, mais manger, c'est un plaisir. J'allais dire hédoniste, mais on va dire plus que rien, parce que c'est simple.
Formidable. On a l'impression que les voyages que vous avez, la fugue que vous avez faite lorsque vous étiez en Hollande, puis venir en France, on se doute que c'est aussi la culture, la gastronomie française qui vous a peut-être retenu, le succès aussi, mais je pense que tout ça a joué. Même les maisons que vous achetez, les différents déménagements dans le Périgord ou à Lille-sur-la-Sorgue, il y a toujours aussi cette connotation de cuisine. Est-ce que c'est foie gras? Est-ce que c'est ratatouille? Est-ce que c'est huile d'olive?
Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais je me sens bien en France. Je l'ai dit un jour, je pense à cette petite anecdote ou un talk show, comme on dit en bon français, aux Pays-Bas. Le mec me dit, comment vous pouvez vous sentir bien en France?
C'est dans le livre.
Prétentieux, arrogant et ambigu de lui-même. Et je dis, je passe un aperçu, ça j'adore, parce qu'ils m'ont pas bien compris.
Pourquoi vous êtes heureux en France? Ils sont nombrilistes. Et vous dites, oui, comme ça, je passe inaperçu.
Exactement.
Il y a toujours cette autodérision comme une arme, comme une protection pour vous.
Vraiment.
Systématiquement, dès qu'il y a un début de souci.
Quand on est petit, d'origine juive, on est très complexé.
Mais vous dites d'origine juive, alors vous ne l'êtes pas.
Pas pour Hitler, oui.
Ah, c'est ça, pour Hitler, vous êtes juif, mais pas pour les juifs.
Non, parce que c'est matriarcal, il faut que ça passe par la mère.
Votre maman était protestante.
Ah non, elle était athée, alors à un point. Ah non, c'était bouffeuse de curé.
Ah, c'est une autre gastronomie.
Beaucoup de recettes. Et vous osez poser avec un tablier de grand chef?
Bah, on m'a offert ça un jour et il y a trois lettres dessus, donc je pense que c'est un peu comme pour un réalisateur américain, mais en fait, il y a marqué WOL, c'est tout simplement mes initiales, Walter Otto Leven.
De votre vrai nom.
Oui, ouais, Walter, en français, Gauthier.
Il y a toutes ces recettes. Vous ne vous interdisez rien. Vous n'avez aucune contre-indication alimentaire, contrairement à Patrick. Mais alors, comment vous faites pour préparer la cuisine, vous qui aimez le gésier, les rognons, ouais, le foie gras, les riz de veau, enfin toutes ces horreurs. Oh. Comment vous faites pour le partager avec un garçon qui est végétarien?
Ben, quand on s'est rencontré,
et qui est l'amour, et que je rappelle, et qui est l'amour de votre vie et qui est votre parolier.
Il vous regarde manger?
Oui, je pense qu'il est vite parce que je mange pas très proprement. Mais... non, et c'est marrant parce qu'il y a donc bientôt 48 ans, on marchait dans la rue de Palinuro, j'avais amarré mon bateau et puis, vieux rafio, hein, pas un yacht. Et il m'a dit, mais on peut pas vivre ensemble. T'aimes la bière, t'aimes le foot, tu fumes le cigare.
Vous jouiez
au
foot.
Tu m'as de la viande.
Ouais, vous étiez joueur de foot.
Ouais, ouais, exactement.
Fan de l'Ajax.
Ça va pas marcher. J'ai dit, t'as sûrement raison, mais essayons. Et ça fait 48 ans bientôt, donc ça va.
Belle histoire. C'est où cherche midi, cuisinez-moi, le livre de recettes de Dave. Ou encore une fois, vous pouvez laisser traîner ce livre dans la cuisine et vous dire, qu'est-ce que je fais à manger aujourd'hui? Il y a des recettes extrêmement simples, comme celle des courgettes à la Paolo dont on a parlé. Puis il y a des trucs un peu plus compliqués, un peu plus costauds.
Oui, mais j'insiste sur le fait que c'est absolument pas un chef professionnel.
Parce que... si, mais vous devez
être. Non, j'ai de l'expérience. Mais, ouais. Mais moi, quand je fais des émissions comme Top Chef, ou l'autre jour, je fais une émission sur France Bleu, j'ose le citer parce que c'est la même maison, où il y avait une spécialiste de la cuisine, et je me dis, il y a encore plein de trucs à apprendre, donc il faut que je continue à vivre.
Pour être un bon cuisinier, il faut rater beaucoup de choses.
Déjà, et la première chose, c'est de faire les courses, de savoir acheter. Moi, je me suis dit, j'ai commencé.
La qualité du produit, pas forcément le prix.
Oui, moi, j'ai fait les courses à l'époque avec quelqu'un qui était un peu mon mentor dans la cuisine, qui n'est plus non plus, quand je vivais sur un bateau, et qui, 9 fois sur 10, quand je rentre sur le bateau avec les denrées que j'avais achetées, il me dit, tiens, t'as acheté des trucs détentes, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Jost?
Non, c'était pas lui. Non,
c'est pas Jost. De... Qui était le premier sur le bateau, en tout cas.
Ah oui, oui.
Sur le bateau, c'était
mort
avec
aussi.
Lui.
Oh putain, ils sont tous morts.
on va faire vite, hein, Dave, parce que
je... ah ouais, ça tourne, ça tourne doucement.
On dit que c'est le meilleur qui part, donc j'ai encore plein d'années devant moi.
Jean-Pierre Coff, oh. Vous avez aimé ce livre, ça va être un carton.
Mais oui, mon cousin, le regretté Jean-Pierre, aurait adoré ce livre. Un enchantement pour l'esprit, les yeux et les papilles. Alors je prends au hasard, Le paillasson de pommes de terre, page 40. C'est pas les pieds qu'on a envie de s'essuyer dessus, c'est les babines. Et... Les courgettes à la Paolo, page 66, qu'on évoquait tout à l'heure, ça donne envie de le connaître, ce Paolo. Et puis, il y a le pain irlandais, page 31. Alors, regardez-moi, c'est page 31. Voilà cette belle miche, là, et cette pâte, la page d'avant, avec les gros doigts des Pays-Bas de Dave en train de la pétrir, de la presser, de la travailler, de la malaxer. Donc, je comprends pas, Nagui, vos préventions. Fallait vous entendre, juste avant l'émission, Spoy JNB, notre rédac-chef, en lui hurlant... Déjà, quand Dave chante, je peux pas dire que je me régale, mais là, pour une fois qu'il chante pas, eh ben, je vais pas me régaler non plus. Mais oh, pourquoi, oh mon maître? Mais espèce de coulure de coulommier, tu sais bien que je suis végétarien. Sur 43 recettes, il y en a la moitié seulement avec des animaux morts, bidoches ou du poisson. À dire que je vais devoir mouiller la compresse de ce viandard batave. Voilà, cher Dave, comment se prépare la bande originale. Alors, pour votre prochain livre, je vous suggère une recette. Les joues de phoque au gouda, parce que des phoques, il y en a en Hollande, surtout dans le Nord. Alors pour ça, faut une tête de phoque fraîchement tranchée, alors à la scie ou à la feuille, hein, de boucher. Et vous allez me la déglairer en la vidant par les narines avec l'embout de l'aspirateur. Oh. La glaire, vous la gardez pour la monter en neige, oh. Comme du blanc d'œuf avec...
Excusez-moi de vous interrompre, Jean-Pierre Coff, mais un autre invité, chanteur, lui aussi souhaite intervenir. Il s'agit de Jean Dick Rivers, le cousin de Dick.
Oh, salut, yeah. Moi aussi, je prépare un livre de cuisine, les recettes de Mamie Rivers.
Des recettes de votre grand-mère, Dick.
Hier, yeah, à commencer bien
votre
sûr.
Grand merdique.
Par la salade niçoise.
Il y aura sûrement des recettes à base de fruits de merdique.
Waouh, tu vas trop loin avec tes jeux de mots à la con.
Dis tout quand même ce que vous avez pensé des recettes de Dave, allez-y.
Oh, je les trouve toutes super, hier, sauf page 22. Le stampot de gratiné aux endives.
Les endives, vous trouvez ça trop amer, Dick?
Oh, tu l'auras voulu, je me casse. Bonne émission.
Merci, Albert. Sur France Inter. Il y a beaucoup d'évocations aussi de votre vie professionnelle dans ce livre.
Allô Elisa, tu fais quoi ce soir?
Après le carton de Vanina, en reprenant aussi Sugar Baby Love, qui était presque une surprise. Personne ne croyait que cette reprise des Rubettes en français allait marcher. Non seulement ça a été un succès pour vous en français, mais en anglais aussi. Vous avez réussi.
Plus en anglais qu'en français.
En vente, c'est ça.
Par hasard, si j'ai suivi. Étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où tu te trouves aussi.
Puis on l'a dit en cuisine, vous êtes fou d'Italie et c'est même devenu une chanson. La cuisine pour vous, c'est aussi une manière d'être en bonne santé. Parce que on est physiquement, on se ressent plus ou moins bien en fonction de ce que l'on mange aussi.
Ah ouais, mais c'est aussi parce que c'est un plongé dans une espèce de nirvana, quoi. C'est-à-dire quand on a des soucis. On va dire métaphysique, quand on fait la cuisine, on n'a pas le temps pour ça. Mmh. On fait la cuisine, quoi. Quand on est malheureux, on est plus malheureux quand on fait la cuisine. C'est un peu comme la scène. Bon, tout le monde, pour la scène, tout le monde comprend qu'il y a de l'adrénaline, mais les gens oublient aussi qu'il y a l'endorphine. C'est-à-dire qu'on a, je pense toujours à Annie Cordy quand je raconte ça.
Vous racontez dans le livre, ouais. Annie Cordy blessée, qui
boit toute la journée. Ouais.
Et on embrasse Annie qui est dans le sud, à Mougins, du côté de Mougins, on l'embrasse fort, mais qui est capable de, malgré son genou qui lui fait mal, de danser comme sur la bonne fille du curé.
Exactement. C'est vraiment formidable. Et en plus, on nous paye, donc c'est quand même
formidable. En revanche, il n'y a pas beaucoup de desserts.
Non, mais il dit qu'il n'aime pas les desserts.
Ouais. Non, je ne suis pas très douceur, enfin, sur un plan gustatif. Oui.
Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas le sucre? Parce que vous préférez salé?
Pas, parce que j'ai probablement trop... Je me souviens des repas de Noël où c'était mon père qui faisait la cuisine et ma mère qui faisait la cuisine au quotidien. Mon père le faisait pour les grandes fêtes. Et quand on arrive au plum pudding, parce que mon père était pauvre de l'anglais, mais plus personne n'avait envie. Et moi, c'est un peu ça quand je mange, quand tu as mangé des riz de veau, des pâtes à l'ail, etc. Tu n'as plus trop envie d'un sucre, d'une sucrerie, quoi.
Voici l'humeur d'Agnès Hurstel.
Bonjour les amis.
Namasté.
C'est bon, namasté, on peut tout arrêter. L'humanité est arrivée au bout du bout du bout de sa course. Nous n'irons pas plus loin en termes de progrès. On peut arrêter de nettoyer les océans pour sauver les saumons full hormones sous pilule jasminelle. On peut arrêter de se prendre en photo en string sur Instagram pour faire avancer le féminisme. On peut arrêter de monter des check-off à Ivry pour l'amour du texte et des autres. Tout ça n'a plus d'importance. Pourquoi ? Parce que Axe vient de sortir un nouveau déodorant pour hommes et que l'odeur, Nagui, c'est cuir et cookies.
L'odeur.
Cuir et cookies dans les Walpes sous les bras. Je vous jure que c'est vrai. Je voulais vous en apporter, j'en ai pas encore trouvé. C'est en rupture de stock. Alors, ok, je savais la masculinité dans une petite impasse post-Weinstein. Mais là, cuir et cookies. Quel est le plan? Je dirais, est-ce qu'on vous impose, Leïla et moi, un gel douche intime, cachemire et apéricube? Ben non, non. Cuir et cookies.
J'imagine. Enfin, si, j'imagine. Leïla est très apéricube sur les aisselles.
J'imagine.
Grosso modo, mon préféré.
Voilà, non, on ne le fait pas. Cuir et cookies. J'imagine. Ne me coupez pas la parole.
Non, mais enfin bon, en même temps.
J'imagine trois créas en réu l'année dernière pour ce projet. Alors là, Benji, en fait, le brief, ce serait de partir sur une virilité ambivalente, parce que l'homme moderne est pluriel, mi-dieu du sexe, mi-molette. Donc tu me trouves un nez et tu me mélanges du cuir pour toutes celles qui rêvent encore d'un hétérobeauf qui coupe du bois et qui donne des fessées, et tu me rajoutes les notes sucrées et chaleureuses du cookies, parce que l'homme moderne est une femme comme les autres, il fait des gommages, il boit de l'épargne et s'épile entre les sourcils, il est cuir et cookies. BDSM et cocooning, levrette sans âme et grosse conversation sous le plaid en mohair, sous son enfance douloureuse. Il est cuir, mais il est cookies. Cuir, cookies. C'est-à-dire qu'il te fait mal et puis il te rassure. Il est très méchant et puis il est très gentil. T'es un génie, Benji. Merci, Adri. On va déj? Non, je te remercie, je suis en pleine cure de jus avec ma femme. Génial. Bref, Axe, j'ai l'impression que c'est toujours un bon baromètre pour essayer de comprendre les garçons. Quand on était adolescente, dans les booms, les garçons avaient tous le même... jean Gap Kids et la même virilité citronnée de chez Axe, déjà. Hein. Ils espéraient sentir le sexe sale, en fait ils sentaient l'acné et l'échec scolaire. Et là, ça fait 10 ans que la marque Axe ne sort que des produits avec des noms genre saveur XL, collision, je vous jure que c'est vrai, anarchie, hot fever, provocation, temptation compressée, on dirait des tags sur YouPorn. Et non, ce sont des déodorants. Alors que je rappelle que la virilité de base, peut-être c'est celle qui sent la transpiration. Mais actuellement, c'est vrai que tout part à volo, voilà, les limites entre le masculin et le féminin sont de plus en plus floues, donc le discours de la marque s'adapte. Et on en arrive à une odeur cuir et cookies. Alors attention, ça reste un déodorant pour hommes, pas pour femmes, faites pas la même erreur que moi. Je mets au défi n'importe quelle petite dame dans le public de se pchiter cuir et cookies là où je pense.
Ça pique.
votre sexe tombe, illico. Ne vous moquez pas, ne vous moquez pas. On a tout essayé de sentir bon des parties intimes pour les grandes occasions, notamment Noël et la Saint-Sylvestre, hein, ma petite princesse. Ne vous moquez pas, Nagui, on est ici entre femmes libérées, n'est-ce pas, Daniel? Mm-hmm. Alors moi, je vous le dis, mes petites princesses, pchitez-vous les unes les autres et bonne semaine.
Merci, bien sûr. La bande originale, Nagui. Tu as réussi à choquer Dave, ce qui n'est pas évident.
Ah oui, oui.
Non, je pense que c'est pas possible.
Si, il est totalement choqué, bouleversé. La musique, évidemment, est extrêmement importante dans votre vie, Dave. Ça a commencé avec Roy Orbison. Only the lonely. Fameuse voix de Pretty Woman, une douceur, une voix de velours, comme on disait.
Je suis content que t'aies pris nos titres, parce qu'en France, on connaît que Pretty Woman.
C'est ça. Et puis, mais parce que j'ai pris le titre que tu évoquais dans ton livre. Oui. Et dans le livre également, tu parles d'un duo, quand tu faisais la manche, les restos, sur Wake Up Little Susie. Wake up, Little Susie, wake up. Et ça marchait, la manche?
Ah oui.
Ça marchait bien.
Ah, c'est la période la moins soucieuse sur le plan financier de ma vie, oui. Parce que déjà, on ne paye pas d'impôts, évidemment, parce que c'est incontrôlable.
On travaille du chapeau, on va de terrasse en terrasse. Comment
travaille au chapeau.
J'ai adoré ça.
Travailler du chapeau, c'est devenir fou.
Ouais, c'est
comme vous.
Travaille au chapeau.
Oui, je travaillais de 7h à 10h, donc surtout à Saint-Tropez. Et j'ai gagné l'équivalent, aujourd'hui, je pense, de 150€ par soir, quoi. Mm-hmm. Net, quoi. C'est extraordinaire. Et puis, c'est un contact direct avec le public. Et pendant des années, c'est un peu fini quand j'ai passé devant une terrasse, même quand j'avais déjà fait la petite carrière, je me dis, tiens, il y a 140€ à gagner, là. J'estimais encore un peu.
Et puis, votre stratégie, elle était assez jolie. C'est, en gros, si on vous donnait pas, c'est pas grave. Comme les touristes vont rester quelques jours au même endroit, faut pas les agresser parce que demain, ils pourront en donner éventuellement.
Exactement. Et un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand même, je sortais souvent avec mon chien. À l'époque, il s'appelle Bart, comme dans Astérix, on l'appelait Bard. Et on ne le donnait pas à manger parce qu'il se débrouillait très bien. Il allait dans les cuisines, trouver des trucs. Et un jour, je passe devant à la ponche à Saint-Tropez et j'étais en assiette. Et puis, il y a une dame qui donne
qui, pas. Pardon, qui est le petit, la petite baie où s'est tournée et Dieu créa la femme de Vadim.
Exactement. Et puis, je passe mon chemin, je vais à la prochaine table et j'entends rire derrière moi et je vois mon chien en train de pisser dans le sac de la dame qui n'a pas donné.
La musique dans la vie de Dave, c'est aussi la bande originale, ce que vous écoutiez au milieu des années 60. Girl of my dreams,
I love you. Fallait le trouver. Honest, I do.
Non mais nous on n'a pas trouvé, c'est vous qui nous avez donné le son.
C'est introuvable. C'est une fan qui me l'a envoyé un jour, c'est vraiment en 1960.
Dave Rich,
et c'est Eddie Barclay qui m'a dit on va garder Dave, Rich on verra plus tard. C'est mignon. Ouais. En fait, oui, j'avais pris comme nom David parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, David dit 2 Samuel 1, verset 26, quand il apprend l'amour de Jonathan, l'amour que je lui porte m'importe plus que l'amour pour ma femme. Et je dis, tiens, lui aussi. Et en plus, il chantait pour le roi Saoul qui était malade en s'accompagnant à la harpe. Donc, je dis, tiens, mais je vais m'appeler David. Et c'est la maison de disques qui a dit, on va dire Dave, parce qu'à l'époque, comme en France, Eddie Mitchell, Johnny Holiday, on prenait le nom qui swingait en anglais, quoi.
Ouais. Et vous vouliez initialement vous appeler David Rivus Witae.
Rivus Witae, parce que c'était mon nom traduit, parce que comme je suis latiniste.
Je sais pas si on a bien compris que c'était vous qui chantiez là.
Ah, c'était moi qui chantais.
Non, mais non, c'est important.
Ah oui, c'est vrai,
non,
oui, c'est important.
On a l'impression que c'était un disque que vous écoutiez et vous avez dit, tiens, moi aussi, je vais m'appeler Dave.
Non, c'était mon premier disque. D'ailleurs, c'est plein d'influences. On entend un peu Roy Orbison, un peu Elvis Presley. Ouais.
On peut le remettre au début pour bien entendre la voix qu'avait Dave dans ses années 60.
À 18 ans.
Elvis. I love you. I must I do. You
are. Ah, c'est fou. Hein.
Et pour revenir à cette période, vous vous lancez, on est en 65 et aux Pays-Bas, on a la période Provo, enfin en tout cas, une espèce de montée de bouclier aussi de la jeunesse.
Mais 68, 3 ans.
C'est
avant,
ça, ouais. L'équivalent. Et vous, c'est pas, vous vous engagez pas là-dedans.
Ben, c'est-à-dire que j'étais à la fac des droits, donc évidemment, on était en plein dedans, parce que tout le monde était en train de manifester.
Dev, articule.
Oui, bon, on m'a déjà dit. Mais je veux dire, ils ont fait une recherche à France 3 pour voir la popularité du présentateur, et le résultat a été, il est de plus en plus sympa, et on le comprend de moins en moins. C'est sûrement lié.
Articule.
Donc oui, vous étiez à la fac de droit,
ouais,
et vous avez commencé à délaisser la fac.
Ouais, c'est-à-dire que j'ai tous les soirs, vers 2h, 3h le matin, que je sortais des boîtes plus ou moins gays, je disais, demain j'y vais à la fac. Puis je me réveillais vers 9h, je me tournais, j'y allais pas. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, mais tu sais, on peut gagner beaucoup d'argent en faisant un guide sur les bateaux-mouches. Et je suis parti. Donc j'étais déjà dans le départ, quoi.
Mais avant, vous racontiez, vous dites dans une interview, je michetonnais un peu pour me faire de l'argent de poche. C'est quoi ça?
J'ai qu'à lire le livre. On va pas s'étendre là-dessus, peut-être à la radio.
Bah, si, parce que c'est pas plus précis que ça dans le livre non plus.
Ah, tant mieux.
C'est vrai, vous ne vous pas.
Non, c'est écrit comme ça.
Ouais. Oui, je fais le micheton des fois. Oui. Mais c'était des souvenirs intéressants, oui. Un inspecteur d'impôt et un pilote d'avion.
C'est vrai.
Ah, ça peut aider, hein.
Pour de l'argent.
Pour savoir ce que ça faisait. J'étais très. Ma vie a été beaucoup influencée par l'envie d'expérience. Ouais. Pas jusqu'à ce qu'a fait Raskolnikov pour savoir ce que ça faisait d'assassiner quelqu'un. Encore que, comme disait Dostoïevski, non antisémite, c'était pas grave, c'était une vieille juive. C'est vraiment très russe, ça. Et c'est pas moi qui dis ça, attention. Hein. Ouais. Et donc, je voulais savoir ce que. Je me souviens que j'avais, par exemple, volé un gros billet de l'époque à mon père pour savoir ce que ça faisait. Et puis, tout le monde était tellement malheureux dans la maison, ma mère se faisait engueuler, etc., que j'ai évidemment retrouvé le billet que je venais de voler. Donc, non, je voulais. Des expériences.
Ouais,
je me suis un peu calmé quand même. Mm-hmm. Mais là, par exemple, je fais l'émission de Nagui, c'est une expérience. Hein.
C'est ça, oui.
C'est douloureuse.
C'est pas la première ni la dernière. Comment vous avez rencontré Eddie Barclay, justement, qui vous a produit pour Dave Rich?
Alors, je suis parti avec cet ami qui
s'appelle en faisant la manche à Saint-Tropez?
Du tout. Ah. Non, j'en ai rencontré plein, notamment Jacques Chazot qui m'a donné 100 francs. Mais je pense que c'était pas tellement pour ma voix, mais il n'a pas eu ce qu'il voulait.
Non, mais il vous a demandé, vous le racontez dans le livre.
Si vous en étiez, en gros.
Oui, quelle horrible question.
Oui, c'est ça.
J'ai des bandants, en bon français. Non, Eddie Barclay, je suis allé le voir.
La maison disque, vous avez rencontré d'abord Fernandez.
Oui, Jean Fernandez. Ouais. C'était quand ça foirait avec mon ami Yos, parce qu'on n'avait pas les mêmes mœurs.
Lui était hétéro, pas vous. Et vous étiez parti sur un bateau de pêche.
Presque le tour du monde.
Oui, c'est vrai, mais j'ai expliqué que tu dors à côté de la personne que tu trouves le plus désirable au monde. Et tu peux pas, mais tu deviens fou. Donc, je suis devenu fou, je suis monté à Paris, puisque quand je faisais la manche, j'ai eu beaucoup de propositions. Des gens qui disent, mais tu veux pas signer de disque, moi je voulais juste vivre en chantant. Et là, je suis allé voir Eddie Barclay, et c'était dans un petit placard, je me souviens.
Enfin, vous êtes allé voir la maison disque,
ouais, maison
là
disque.
Vous avez rendez-vous avec Jean Fernandez, le directeur artistique de la maison disque,
et, donc,
et vous chantez.
Exactement, je chantais dans un petit placard, et le bureau d'Eddie était juste en face, et il est sorti de là, il dit, on le signe. Et je dis, oui, mais il me faut 6 000 francs. Ça
a été surpris. Parce que la voix portée, c'est ça, parce que vous avez.
Ouais. C'est un peu ne pas aimer, mais on m'entend.
Hein. C'est ça.
Voler un petit bout.
En 1974, CBS, les premiers succès, évidemment, et vous découvrez, on en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est vous qui le découvrez ou si on vous l'apporte sur un plateau. Les rebelles.
Ce serait trop beau. Ouais. Ce serait.
On va d'abord écouter l'original, quand même, ça a commencé par Les Rubens, Sugar Baby Love, et après il y a eu Trop Beau. C'est vous qui avez demandé à adapter ce succès ou on vous l'a
proposé?
Non,
c'est-à-dire que mon disque était fini, avec deux chansons de M. Claude Morgan, qui d'ailleurs a fait la musique de mon album qui va pas tarder à sortir, avec la fille à deux papas. Et c'est Jean-Jacques Chouplet, que j'embrasse, qui est au ciel, et qui a dit, j'ai entendu un truc à la BBC, écoute ça, c'est numéro 10 sur l'hitparade, et je tombe sur Sugar Baby Love. Et on a appris que Polydor, la maison de disque de Roubaix, ne les sortait pas en France, en disant que c'est pas pour le marché français. On est donc sorti avant le Roubaix. Et quand le Roubaix sont arrivés, on était déjà sur l'hitparade. Et ils en ont vendu 800 000 en anglais, et moi 400 000 en anglais et 300 000 en français. C'est incroyable, cette histoire. Et les gens croyaient que j'étais les chanteurs de Roubaix, quoi. Et ils m'ont découvert qu'avec Vanina. Mais c'était 700 000 disques.
Même trop beau, donc, la version de Dave donnait ça.
Ce serait trop beau. Ce serait.
Premier grand succès de Patrick Bravo.
Et oui, c'est Patrick qui a écrit le texte. Ouais. Et justement, quand vous écoutez, vous vous réentendez là, est-ce que vous voyez un moment précis de votre vie? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à cette époque-là? Tout d'un coup, c'est un succès phénoménal.
Ouais, j'ai rien compris. J'ai eu mon premier chèque, donc au bout d'un semestre, on a le premier chèque. Et j'ai dit à Patrick, mais on s'en va. avec ça on peut vivre le reste de notre vie.
Ah ouais, vous êtes assez.
Et là, j'ai fait les grandes erreurs en disant oui, mais ça marche si, peut-être que ça marche encore un peu, on va peut-être rester encore un peu plus voir. Et je suis toujours là comme un con.
C'est vrai, enfin, vous dites
dans le livre, il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans votre carrière, ouais. Mais il y a eu cette période qui a duré 4-5 ans où vous remplissiez l'Olympia, vous...
Bah, plus que ça, mais vous faisiez les plus grandes salles. Je me souviens, le Forest National, il faut le remplir quand même.
À Bruxelles.
Oui. On avait battu les Rolling Stones. D'ailleurs, je me souviens qu'après, j'ai dit, je vais faire Genève, parce que là, j'étais vendu, comme on dit, et j'ai dit, je vais me produire moi-même à Genève. Il y avait 900 personnes. Parce que si allez le matin, c'est Patek, machin, un truc, montre squelette, et je dis, si la location est bonne, je repasse. Et ils m'ont jamais revu.
Mais vraiment, vous regrettez de ne pas être parti après le premier grand succès ?
Non, non, parce que la vie de l'homme sur la scène, pour moi, c'est vraiment... Je suis très amusé de voir ce que je fais là, puis c'est une passion, la cuisine. Mais ma vie, c'est la scène. Mm-hmm. Ma vie, ce n'est pas le labo de l'enregistrement. Dieu sait que j'adore enregistrer des disques, mais on ne gère pas soi-même ça. C'est le preneur de son, c'est l'arrangeur, etc. La scène, c'est chez moi. Et donc là, tu me mets n'importe quel public, j'ai tellement fait des galères et j'adore ça.
Les croisières, notamment, à un moment, vous racontez.
Oui, les comités d'entreprise.
Nous allons
ça,
en parler plus tard. Ouais. Nous sommes dans la chronologie. Venir. Merci, Albert. Je t'enverrai le principe de l'émission plus tard. En 96-97, c'était la période Radiohead.
Ah ouais.
Est-ce que de la musique, vous l'écoutez chez vous, juste pour le plaisir d'écouter de la musique, sans forcément que ce soit la vôtre ou...
Ah bah heureusement.
Alors laquelle, justement, Radiohead ?
Je connais peu de chanteurs qui s'écoutent à la maison, peut-être un peu au début de voir ce qui ne va pas. Non, ce n'est pas mon genre. Non, moi j'écoute, à la maison, j'écoute ce qu'écoute Patrick Vazo. Et dans ma voiture, j'écoute ce que j'écoute moi, c'est-à-dire c'est plutôt France Musique ou Radio Classique.
Musique classique,
oui. Ouais, je suis très, très branché classique. Peut-être aussi parce que ça m'énerve de ne pas m'entendre plus à la radio. C'est Radio Classique, je suis sûr de ne pas m'entendre.
Mais alors, Radiohead, Creep en plus, qui est plutôt...
Ah, c'est génial.
C'est très sombre en plus, et les paroles sont...
Oui, c'est sûr, mais c'est surtout l'entrée des guitares qui m'amuse. Quoi. Je trouve ça... Il y a disons que moi, je suis très mélodique quand même. C'est pour ça que j'ai toujours du mal. Je me fais des ennemis avec ça, mais je n'arrive pas à marcher sur le rap. Je suis allé les voir plusieurs fois sur scène, j'essaie de comprendre. Il me manque la mélodie, quoi.
Ah, on va revenir. Reviens juste un tout petit peu avant. On a raté l'entrée de la guitare. Mais 5 secondes avant. Tu peux pas faire ça. Ah, dommage. Parce que ça démarre comme une espèce de mitraillette, quoi. Comme et ça rentre avec un pur son. Tom York ayant été, d'ailleurs, je précise, l'invité d'Augustin Trapenard, c'était encore la semaine dernière. Tu l'as pas. Bon, c'est pas grave.
Un de mes plus grands souvenirs, excuse-moi d'interrompre, même si t'avais pas commencé.
Mon
plus grand souvenir des émissions télé que j'ai fait, c'est un duo avec Michael Bublé. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Alors, on a la guitare, écoutez.
Ouais.
Quels sont.
Et dans ces années-là, Dave, vous acceptez de tourner une publicité. Vous racontez.
J'ai bien fait.
Ouais, et quelle publicité ? Parce que c'est un chèque énorme. Vous faites le parallèle avec un gagnant du loto.
Ah, complètement. Je dirais que j'ai jamais gagné 400 000 euros sur 2 jours. Hein.
Donc, c'est fou.
Ouais. Mais personne, oui, pour Edam, c'est ça ?
Ouais, l'Office national des produits laitiers d'Hollande avait décidé de prendre un ambassadeur par Paris. Par pays. Il y en avait donc un en Allemagne, oui. Il y en avait en Belgique. Et donc, ils m'ont demandé, moi, pour le faire pour la France. Et j'avais aucune idée ce qu'elle pouvait rapporter. J'ai téléphoné, je me souviens, à Carlos, j'ai téléphoné à Clémentine Célérier, qui faisait à l'époque des pubs. Je dis combien ça paye. Il m'a donné des chiffres marrants. Et après, je l'ai donné dans la main de celui qui tient lieu de mon conseil fiscal, mais qui est avant tout avocat et les gens de métier le connaissent, il s'appelle Alain Barsikian. Et quand il m'a dit qu'il allait demander, je dis. Ah, je vais perdre l'affaire, quoi,
ouais,
du fou.
Ouais, c'est trop.
Maintenant, il a obtenu ce qu'il a demandé et ça m'a permis de reconstruire ma ruine.
Qui a eu l'idée de reconstruire la ruine ? C'est on parle de la maison.
Ouais.
C'est
C'était ruine avant.
Oui,
c'était pas moi. Tu
non, on ne parle pas de votre fils.
Il aurait fallu beaucoup plus d'argent, là.
Mais, merci, Roberto.
Est-ce que ça vient de votre sens de l'humour ou c'est l'agence de publicité qui a fait tous les jeux de mots ?
Ça, ils n'ont pas osé me le demander. Ça vient de moi. Mais c'est-à-dire que
Il faut demander des droits d'auteur pour avoir écrit
Dave aime les dames. À ce prix-là, je fais Tampax, quoi. Mais personne ne me l'a proposé.
Non, non. Mais en tout cas, ça intervient à un moment où voilà, là, c'est plus compliqué. Non, mais ça intervient à un moment où c'est compliqué au niveau de la carrière. Et j'essaie d'enchaîner.
Vas-y, comble. Voilà, le comble.
Il est pas minuit, là.
Midi, vous êtes trompé.
Mais en tout cas, Dave, ça intervient à une période de votre vie où c'est plus compliqué au niveau de la musique de gagner votre vie. Et c'est aussi là que vous commencez à exploiter la personnalité, votre nature, c'est-à-dire votre sens de l'autodérision, de l'humour, et qui fait que vous arrivez à la présentation d'émissions de télévision aussi.
Oui, on peut pas dire que j'ai exploité ça, c'est-à-dire que c'était juste au moment où ça redémarrait, et quand moi je marchais fort, ouais. Dans les années 70, il n'y avait pas de talk show. Donc les chanteurs venaient chanter, puis au revoir, quoi. Et les chanteurs de variétés, comme on disait...
Il n'y avait même pas d'interview après mais la chanson, rien. C'était merci, au revoir.
Et Jacques Chancel n'allait pas inviter un chanteur pour Minette, comme on nous a à l'époque. Ouais. Tandis que là, on m'a donné la parole, et là, il y a des producteurs, donc Job, qui
vous ont
dit, tiens, la langue bien pendue, etc. Et moi, j'ai...
C'est quoi, c'est qui? C'est Marc-Olivier Fogel, le premier qui vous a invité?
Ah non, c'était bien après.
D'accord.
Non, c'est Tina Kieffer.
Dans Froufrou ?
Oui, ouais. Très bien.
Ouais. Et après, c'était Guy Job. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment vivre. Et c'était pas très loin, parce que moi, sur scène, je suis situé entertainer. Je parle beaucoup entre les chansons. D'accord. Pas autant que Hugo Frey, mais quand même beaucoup.
Ça y est, il ne peut pas s'empêcher. Hein.
Bonjour Hugo. En 2018, c'est la tournée H tendre.
Mais tes yeux me disent bien plus qu'un adieu. Va-t'en.
Ça dort.
Une tournée avec Sheila, Nicoletta, Michel Thor, Dick.
Alors, j'ai adoré Dick, je ne connaissais pas. Je savais que j'aimais sa voix, parce que cette chanson, qui est une chanson de Moody Blues, Go Now, en anglais, sa version est forte, il a une voix formidable. Et je croyais que c'est pas qu'il se prenait terriblement au sérieux, ce qui n'est pas totalement faux, mais en même temps, il a une espèce d'autodérision.
Ah oui.
Il est vraiment intéressant comme mec. Et c'est pas
vous avez hésité avant d'accepter de faire la tournée à Achetant, moi?
Ben, c'est-à-dire que j'ai hésité en fonction du prix qu'il me proposait de Chavannes, mais quand on a fini, je me suis d'accord.
Ah oui, c'est Christophe de Chavannes qui produisait, c'est vrai.
Mais je lui ai dit, il m'a dit, mais pourquoi t'es plus cher que les autres? J'ai dit, parce que je suis le seul avec lequel tu vas faire de la promo.
Ah ouais, vous êtes un malin quand même. Et puis il y avait Nicoletta aussi dans la bande, pour qui vous avez écrit une chanson, je crois.
Deux chansons.
Ouais,
absolument.
Parce que vous êtes aussi parolier.
On parle
de Patrick,
j'ai
toujours. J'ai
écrit un petit black, mais parce qu'on ne peut pas dire petit nègre. Mais je suis plus compositeur qu'auteur.
C'est plus la musique que les paroles, vous.
Ouais,
c'est ça. Nous allons parler justement aussi un peu de la télévision et de votre carrière à la télévision avec Jean-Pierre Pasqualini. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Journaliste, animateur radio, télé, directeur des programmes de Mélodie TV. On va reparler également de ce que vous faites ensemble sur Mélodie TV. Qu'est-ce qui fait, avec un peu de recul, le succès de Dave? C'est ce mélange justement de, évidemment, des mélodies, des succès, de la nostalgie et de l'autodérision et de l'humour très actuel?
Bah, c'est un côté cookies, hein, comme disait notre ami.
Et pas cuir.
Non, pas cuir. Plutôt cookie, c'est
en
sucré.
Anglais, oui.
Dave, Dave, c'est le néo-yéyé par excellence. On avait eu des yéyés qui faisaient des wabdouab, des dadouronron, des douadidi vers 63-64. Lui, 10 ans après, en 74, d'abord, il reprend Vanina, qui est un titre de cette époque-là, de Del Shannon.
Et il a toujours la voix pour.
Voilà, il a la voix et puis il fait du yéyé de haut vol quand même. Hein. Il fait du néo-yéyé de haut vol. Et d'ailleurs, le néo-yéyé, ça existe toujours. Rappelez-vous Laurent Voulzy qui avait chanté « Quand vient la fin de l'été sur la plage ». Cette chanson qui s'appelait aussi « Dernier baiser »,« Sealed with a kiss », qui venait aussi des années 60. Donc, il fait partie de toute cette famille qui met de la joie, qui a la pêche, qui a de la mélodie, parce que ça, on peut chanter Dave sous la douche, parce qu'il y a toujours des super mélodies. Et puis, il a les textes de Patrick Loiseau.
Sous la douche.
Non, mais on en a pris un paquet de douches ensemble, hein, Dave, hein, vous ne savez pas.
Okay, en tout cas, Patrick Loiseau a toujours su mettre des textes.
Et vous voulez dire sur Patrick Loiseau, oui, pardon?
Oui, je voulais dire qu'en plus, il y a eu des textes, et vous en avez parlé, notamment pour du côté de chez Swan. Souvent, on critique la variété, on appelle ça la variétoche. Moi, je suis celui qui défend un peu tout ça, en trouvant que du côté de chez Swan, c'est super, le texte est super beau. Il y a plein de gens du côté rive gauche qui pourraient aimer ce texte. Donc voilà, le yéyé, c'est pas forcément un truc cheap.
Alors, est-ce que justement aujourd'hui il n'y a pas, pardon, il n'y a pas un côté chic à aimer ces chansons qui étaient considérées comme trop populaires à l'époque. Ce qui est le cas pour Dave comme pour Claude François. Il y a un côté presque branché dans les soirées à chanter du Claude François ou du Dave.
C'est vrai que quand j'étais au lycée, on critiquait Clo-Clo, on critiquait Sheila. Aujourd'hui, c'est le patrimoine, c'est l'histoire de France. Hein. Aujourd'hui, on va plus du tout critiquer les débuts yéyé, même si c'était un peu clinquant, un peu cheap. Aujourd'hui, c'est over-kitsch. Et le over-kitsch, c'est chic.
Sur Mélodie TV, qui sont les stars que vous mettez en avant?
Ah ben tout, hein. Là on a célébré les 40 ans de la mort de Brel, parce que ça fait 40 ans qu'il nous a quittés. Ce sont aussi les gens très paillettes dont on parle, les gens de la variété, parce qu'on aime ça, Dalida, tous ces monstres sacrés. Mais c'est pas que ça, c'est aussi, c'est aussi Barbara qu'on a célébré pour l'année dernière parce qu'elle nous avait quittés il y a 20 ans en 97. Donc voilà, c'est tout le patrimoine de la chanson, mais sans exclusion. Et même c'est Taratata qu'on rediffuse, hein.
Oui, absolument. Sans mon autorisation, je le rappelle. Mais pour en revenir à ça,
je sens qu'il faut que vous vous parliez.
Il fallait pas faire le malin. Là.
Il le fait. Il a le droit, mais il m'a pas demandé.
Mais là, je vais demander parce qu'on voudrait recommencer. Donc je vous le demande officiellement. Là.
Ça va coûter vachement plus cher.
Hein. Réfléchisse.
Je vous envoie Dave pour négocier.
Là, vous êtes mort.
Alors là, je suis mort.
Vous le dites dans le livre, Dave. Vous faites des galas de croisière, justement, dont parlait Albert. Maintenant, tu peux en parler.
Albert, comité d'entreprise.
Les comités d'entreprise, là, c'est uniquement pour bouffer, quoi. Ouais. C'est à un moment donné, il faut gagner d'argent.
C'est pas uniquement pour bouffer, c'est surtout pour chanter. C'est surtout pour chanter.
Oui, mais bon, il y a
des négociations. Non, mais l'autre. C'est-à-dire que vous parlez tout à l'heure de l'intermittent. L'intermittent n'est pas cadre. C'est-à-dire qu'on a des petites retraites. Et Marcel Lamont, je ne pense pas qu'il m'en voudrait que je lui dise que Marcel Lamont, à l'époque, il gagnait beaucoup d'argent aussi au noir. Ça veut dire qu'il a une sublime maison, mais il n'a pas tellement d'argent qui rentre, quoi, parce qu'il n'y a pas de retraite. Oui. Donc, quand un vieil artiste dit « je travaille parce que j'aime ça », oui, mais il a besoin aussi de bouffer, quoi.
Alors c'est ça, justement, la question. Est-ce que ces tournées à Stendre, est-ce que ces galas, est-ce que ce qui se passe, c'est aussi une manière pour eux, pour ces artistes, de rester sur scène, parce qu'ils aiment ça, ils aiment le contact avec le public, et puis en même temps, il faut gagner aussi sa vie.
La tournée à Stendre avait débuté avec Michel Alguet en 2005. Il y a eu 5 millions de tickets vendus quand même en 10 ans. De Chavannes l'a reprise pour les dernières années, comme le disait Dave.
Et ça marchait aussi bien.
Et ça marchait du feu de Dieu. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que des gens comme Nancy Holloway, qui est la chanteuse de T'en vas pas comme ça en 63, elle a pu continuer à bouffer grâce à ça. Il y a plein de gens pour qui c'était vital, à qui on demande plus aucun gala, plus rien. Donc grâce à ces 17 artistes qu'on mettait ensemble, alors Dave, évidemment, il n'a pas besoin de ça parce qu'il fait des galas tout seul, mais il y a plein de gens qui ne pouvaient pas prétendre à un gala tout seul. Donc ça a été vital pour plein de gens. Et moi,
je fais des galas tout seul, mais je ne remplis pas les zéniths. Donc moi, je fais des salles de 800 000 personnes et je suis ravi, hein, même à 400, j'y vais. Mais je veux dire, là, on fait ces matinées, soirées, 7 000 personnes, 8 000 personnes, comme les artistes aujourd'hui.
Vous parlez dans le livre de ce qui s'est passé, par exemple, avec Henri Salvador, c'est-à-dire qu'il y a...
C'est le rêve de tous les vieux chanteurs.
D'un coup, la flamme se rallume.
Ouais. Moi, j'ai sorti un album. J'ai la grande chance de sortir un album au printemps, qui en plus est produit par Renaud. C'est quand même assez extraordinaire parce qu'il a entendu une chanson qui est, on va appeler avec un mot d'aujourd'hui, sociétal et qui c'est de son genre. Et il a voulu écouter le reste et il a décidé de le produire. Donc il m'a payé les studios à Bruxelles, où tout le monde veut ICP, où tout le monde veut y aller, etc. C'est une rencontre exceptionnelle et je l'embrasse très fort, évidemment.
Et ça, on ne l'a pas encore en extrait, on ne peut pas le passer.
C'est la fille de papa ?
Oui, la fille de papa. Ouais, oui. Je l'ai mise juste sur YouTube.
Non, alors attendez, mais on me dit que... Ah oui, je l'ai bien cachée, elle est là.
La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas mal de mère, au contraire, dans son cœur, tout est clair.
On pense à...
Et Renaud,
on pense à votre ami Fogiel.
Évidemment, c'est lui qui a demandé à Patrick Vazot il y a 2-3 ans. Ouais. Il était chez moi avec ses deux filles. Je suis le parrain de Mila, la plus vieille, et qui a 7 ans. Et
on
il a demandé
grande,
à Patrick d'écrire une
chanson. Quand on a 7 ans, on ne dit pas la plus vieille, on dit la plus grande.
Oui, c'est ça. Ouais. Même mon petit frère a 72 ans.
Hein. C'est vrai. Non, en plus, il faut le dire quand même que le texte de Marc-Olivier Fogiel, c'est le livre qui est sorti, qui a déclenché plein de réactions, et un très très beau livre de témoignages.
Absolument. Ouais.
dans lesquels il comprend très bien qu'on n'est pas pour, hein, parce que lui comme moi, on n'était pas spécialement pour. Et puis moi, je fais partie de ces générations qui ont passé un instant à envisager d'avoir des enfants. Ouais. Mais lui, oui, et tant mieux. Et puis les jeunes couples aujourd'hui gays, que ce soit des filles ou des garçons, ils pensent. C'est un problème sociétal qui m'échappe. Je suis une humble chanteur de variétoche, mais la chanson est une chanson d'amour.
Pour en revenir donc à la carrière, est-ce que vous dites à propos d'Henri Salvador, Jean-Pierre Pascalini, ce n'est pas donné à tous les chanteurs d'avoir comme ça une deuxième carrière qui est devenue très, très branchée, parce que c'était Karen Anne Violet qui avait fait Le Jardin d'hiver, ce qui s'est passé pour Henri Salvador, et dont tous les chanteurs rêvent, comme vient de le dire Dave,
c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, et je crois qu'Henri Salvador avait un double atout. Il avait été le rigolo des années 60 avec Zorro est arrivé, Le travail c'est la santé, mais il avait aussi chanté Bernard Dimet, Syracuse et de très belles chansons qui ouvraient déjà la route à Jardin d'hiver de Biolay et Kerenan. Donc il avait quand même le petit plus d'avoir chanté Le loup, la biche et le chevalier, une chanson douce que me chantait ma maman. Il avait déjà chanté de jolies chansons.
Ils ne sont pas obligés de trouver non plus une génération qui vienne leur écrire des paroles, parce que Christophe réussi à être totalement branché, pointu, en faisant tout seul ses albums et sans forcément demander à qui que ce soit de le faire pour lui.
Il n'en vend pas autant qu'Henri Salvador.
Oui, il en vend moins, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il a commencé Yéyé, à l'époque Yéyé, en écrivant lui-même ses chansons, ce qui n'était pas le cas de tous les Yéyé, à part Françoise Hardy, Christophe et Adamo. Christophe a été un des rares de l'époque à écrire lui-même, mais il est passé aussi par le néo-Yéyé. Rappelez-vous, avec Les filles, j'ai un succès fou, c'était aussi très néo-Yéyé dans les années 80.
Que fait sur Mélodie TV Dave? Il anime, il présente.
Ouais, il est un expert, c'est pas un animateur. Chez nous, on a que des experts. Il nous raconte les parents du petit écran qui est les grands.
On voulait appeler d'ailleurs les parents de la télé, ils ont pas voulu.
Après les enfants de la télé, ils ont qu'un humour.
Manque d'humour.
Merci beaucoup Jean-Pierre Pascalini.
Merci à vous.
À ce micro. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour Nagui.
Asia Bibi est toujours au Pakistan, l'attente d'un exil forcé.
Oui, Asia Bibi, c'est cette chrétienne pakistanaise qui a une fatwa édictée par 150 chefs religieux sur la tête. Elle essayait de contracter une assurance vie. Personne n'a voulu. Les déménageurs bretons sont prêts, mais on ne sait pas si la France va l'accueillir ou le Canada ou l'Allemagne. Anne Hidalgo a même proposé Paris. Elle pense que c'est un pays.
C'est la bande originale, soyez bienvenue si vous nous rejoignez avec Leïla Kadouboudali, Agnès Surstel, Tanguy Pastureau, Albert Algou,
bonjour.
Daniel Morin.
Bravo toi.
Et notre invité, Monsieur Dave.
Bravo. Dave.
Cuisinez-moi, le livre de recettes de Dave, je les ai pas comptés, il y en a quoi, une quarantaine, c'est ça, de recettes?
43.
Ah, toi, tu les as comptés?
J'ai compté.
Ok.
Il bosse, il travaille.
43 recettes pour une vie. Et pourtant, il y a toujours une dernière recette qui ne sera pas dans le livre. Par exemple, vous avez mangé, la dernière fois que vous avez cuisiné, c'était quoi? Hier ou avant-hier?
J'ai fait des choux de Chine que j'aime pas trop, avec des shiitake que j'aime beaucoup, et les choux avaient le goût de shiitake, donc c'était très bon. Là, je parle français.
Mais pourquoi vous commencez par quelque chose que vous n'aimez pas? Je comprends pas.
Parce que je l'aime bien cru, et les tiens, si je les mettais à cuire.
Donc vous faites des expériences, vous essayez des choses.
À tout point de vue.
Mais moins à moins. Est-ce que vous partez d'un livre de recettes, d'un livre de cuisine, ou simplement à l'inspiration en faisant les courses, en écoutant ce que les commerçants aussi peuvent dire?
En faisant les courses, exactement. Tout est là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je rentre dans le magasin et je regarde ce qui est à vendre et en fonction de ça, je fais la cuisine.
Est-ce que de la même manière que vous avez choisi des maisons en fonction de la cuisine locale, que ce soit le Périgord ou que ce soit la Provence, est-ce qu'à Paris, vous avez choisi l'appartement en fonction du quartier et du marché?
Non, mais ça fait 8 jours que j'habite à la ville de Montmorency et c'est pas mal.
Chic.
Et oui, c'est très chic. Ouais.
C'est chic. Vous avez qu'à balancer votre adresse comme ça à l'antenne.
J'ai encore les voir Mylène Farmer, mais. Mais il y a la rue d'Auteuil qui est extrêmement chic. Qui est extrêmement populaire, où il n'y a pas de building haussmannien, c'est 2 étages maximum et c'est très agréable pour faire les courses. J'ai découvert ça et c'est vraiment bien.
Très bien. Voici Tanguy Pastureau sur Aber. Tanguy, cela fait plusieurs semaines qu'on parle d'Asia Bibi.
Oui, Asia Bibi, ce n'est pas un tube de ralette qui serait mis à la pop coréenne, mais une dame pakistanaise. Ces gens qui, chez nous, tentent de nous faire acheter des roses au resto, même quand on dîne avec son épouse de 25 ans dont on n'a plus rien à foutre. En 2009, Asia Bibi, qui a alors 38 ans, 70 de moins qu'Adamo, cueille des baies dans la nature parce qu'elles ont moins de glyphosate, donc il y a encore de la vie dans les forêts. Nous, dans les nôtres, on trouve au max 4 exhibitionnistes morts de s'être frotté à un épi de maïs défoncé de pesticides. À un moment moment, deux femmes lui disent « on a soif », la phrase la plus prononcée lors des fêtes de Dax. Avec quoi enceinte, mais comment on va faire ? Asia Bibi va chercher de l'eau à un puits, boit une gorgée, puis rapporte de l'eau aux autres. Et là, une des femmes lui dit « j'en veux pas car tu es impure, tu as donc souillé l'eau du puits, ben... » Et donc, elle ajoute « Paul, une tourtelle ». Asia Bibi est chrétienne, les autres musulmanes. Et là, Bibi dit à la femme qui refuse de boire « je ne crois pas que le prophète soit d'accord avec ce que tu dis. Pile le truc qu'il fallait pas sortir. Si ça s'était passé aujourd'hui, elle aurait parlé du prix de l'essence et la tension retombait. Mais on est en 2009, 8 ans avant qu'on collabore ensemble, Nagui, et que je donne un nouveau souffle à votre carrière. Et au Pakistan, il y a une loi anti-blasphème très sévère. Chaque année, 300 personnes sont accusées de blasphème, soit envers Mahomet, soit envers le Coran. Si au France Loisirs d'Islamabad, vous dites « Ouais, le Coran, sympa, mais j'ai plus accroché sur le dernier Guillaume Musso », vous finissez en tôle. Résultat, en 2010, Asia Bibi est condamnée à mort, plus retenue de 2 ans et demi de salaire, soit 850 euros. Ce que gagne Neymar toutes les 2 secondes, 4000 euros la seconde s'il applaudit le public. Elle est emprisonnée pour blasphème et pour sa sécurité, parce que tous les extrémistes dehors veulent sa peau. Elle a moins de chances de survie que Rémi Gaillard s'il se déguisait en chevreuil le jour de l'ouverture de la chasse. En 2011, le gouverneur du Pendjab qui soutient Asia Bibi est assassiné, ainsi qu'un ministre qui lui aussi la défendait. À partir de cette date, à la question « Vous connaissez Asia Bibi ?», tous les Pakistanais répondent « Pas du tout, c'est qui ? Une chanteuse ?». En 2016, le Pakistan hésite à la libérer. Ils se rendent compte qu'elle est en tôle depuis 7 ans pour un verre d'eau. Mais 150 chefs religieux édictent une fatwa. Déjà, quand il n'y en a qu'un, vous faites pas le Mickey, mais 150, c'est énorme, comme dirait François Bayrou, qui n'a jamais entendu autant de gens prononcer son nom dans un meeting. Du coup, le juge laisse tomber, tel Benoît XVI, Nicolas Hulot ou le coach de pilates de Gérard Larcher, et le procès est reporté. Enfin, enfin, en octobre dernier, Bibi est acquitté. Le juge en chef disant qu'après enquête, elle n'a pas insulté l'islam. 10 ans pour arriver à ça. Leur justice est aussi lente que la nôtre. Nicole Belloubet peut faire une excellente seconde carrière au Pakistan.
Le problème, c'est qu'Asia Bibi ne peut pas rester dans son pays.
Ah non, parce qu'elle y a des soutiens, mais tous les fondamentalistes du coin ont mis un billet sur sa tête. Et les types sont aussi ouverts à la discussion qu'un serial killer qui a pris trop de Red Bull et dispose d'une tronçonneuse. Jeudi dernier à Karachi, la seule ville où Édouard Balladur est une affaire. 10 000 gonzes ont défilé en criant « Pendez Bibi ». Donc quand Macron dit dans la rue à un type « Le prix du carburant, c'est pas Bibi », je sais pas si c'était le sobriquet le plus adapté au moment. Parce que c'est aussi risqué que de s'appeler Gunther en 44 sur une plage normande. Donc Asia Bibi va être exfiltrée, elle plus toute sa famille, ça fait 10 à 12 personnes. Même si vous évacuez les gypsies King, il y a moins de monde. Alors, mais verrou, bah, on ne sait pas. Alors, son mari a demandé l'asile à la Grande-Bretagne, mais Theresa May a dit non. Alors, d'après les chrétiens pakistanais, elle craindrait des troubles islamistes. Parce que des radicalisés là-bas, il y en a plus que de dépressifs à un concert d'Eddie de Preto. Donc, si elle quitte le Pakistan pour retrouver en Angleterre la même faune, c'est comme d'emménager à Pigalle parce qu'on trouvait qu'au Cap d'Agde, les gens mettaient pas assez de slip. Hein, bon, en gros, Theresa May a cédé au communautarisme, hein, il faut dire les choses clairement. Il y a qu'en matière de look que celle-là prend des risques. En France, Anne Hidalgo alors a proposé à Asia Bibi de l'accueillir à Paris. Celle-ci a répondu « Non merci, c'est trop sale ». Et Wauquiez a demandé à Macron de lui offrir l'asile parce qu'elle est chrétienne menacée par des musulmans. Ça sert son discours. Jamais Wauquiez avant n'avait semblé kiffer les Pakistanais. Ainsi, demain, il réalise que les lointains descendants de Charles Martel par la magie du métissage sont des Noirs vivant en Ouganda. Il leur ouvre les portes de chez lui en disant « Mikasa est tout cassa ». Et même le Quai d'Orsay semble prêt à valider l'arrivée d'Asia Bibi, alors que c'est chaud, parce qu'elle est en danger de mort partout. Une fatwa émise aujourd'hui à Islamabad s'est relayée jusque dans l'Indre avec le web. Il va falloir la planquer dans un endroit que personne ne connaît, comme le siège du parti Les Patriotes de Florian Philippot. Hier, c'est Justin Trudeau, le playboy canadien aux chaussettes moches, qui a déclaré être en contact avec le Pakistan pour accueillir Asia Bibi, donc tout le monde la veut. Hein, c'est une star. Une fatwa, ça vous relance une carrière. Regardez Claire Kay, mais n'en a pas eu. Elle n'a jamais rien dit, ni sur l'islam, ni sur rien.
Arrête.
Et ben, elle est retournée à l'anonymat.
Arrête.
Donc, Asia Bibi peut donc choisir.
C'est faux.
Paris,
tu sors.
Montréal, elle fait ce qu'elle veut, mais elle sera traquée partout, ainsi que ses 5 enfants, son mari, pour un peu d'eau un jour où elle avait soif. Bon courage à elle et au pays qui va avoir les yukous de l'héberger.
Et j'embrasse Claire Kay. Ouais.
France Inter, la bande originale, avec Nagui. Ha ha ha.
Ouais, ça vous plaît cette méchanceté gratuite, hein, vous aimez ça, vous.
Il était dans l'émission que j'ai eu le plaisir de présenter, France 3, et vraiment, il faisait un papier d'amour sur l'invité, qui était pas mal.
Ouais, de Tanguy Passion. Ouais, c'est ça, amour, je t'aime, je te hais. Cuisinez-moi, Dave, ce livre de recettes, vous avez déjà rencontré des lecteurs, vous faites des signatures dans des...
Oui, j'ai fait faire des briefs, donc là, j'ai eu beaucoup de gens. Ah, oui.
Alors, quelle réflexion, quelle remarque avez-vous? Est-ce que c'est plutôt la littérature, le texte, votre vie racontée, ou la cuisine, le mélange des deux qui plaît? Quelles sont les réactions? C'est un concept, hein, ça.
Oui, oui. Ce que j'ai surtout retenu, c'est un coup de fil, un texto, pour être précis, de Laurence Boccoloni, parce qu'il y a un coquille dans le livre. Et elle a essayé de faire le pain dont je donne la recette.
Et donc, il y a une erreur dans la recette du pain.
Il y a marqué 400 centilitres et c'est 40. Donc, elle m'a envoyé un texto en disant, ça fait la pâte à crêpes et pas de pâte à pain.
Elle a suivi la recette.
Maintenant, quand je dédicace le livre donc à Brive, à chaque fois que je trouvais quelqu'un de très gentil...
Vous corrigez.
J'ai corrigé. Si je ne trouve pas gentil, je le laisse.
Et puis, les questions aussi de littérature dans Cuisinez-moi. Vous parlez de la figure paternelle comme cet amoureux des livres.
Oui, mais qui est le premier qui l'a...
Mais qui vous a aussi initié à la gastronomie, finalement.
Ah oui, surtout d'ailleurs. Je me souviens, il y a très longtemps, dans les années 70, il y avait un papier qui avait été repris par un journal hollandais dans lequel je disais, justement, que je remerciais mon père pour tout ce qu'il m'avait appris. Et il m'appelait un peu déçu en disant, c'est tout ce que je t'ai donné, le goût pour la gastronomie. Je dis, papa, c'est énorme, quoi. L'envie de vivre de manière épicurienne, c'est tellement important. Donc, il a compris, je pense.
Et puis, il y a les livres aussi. Vous parlez d'un auteur en particulier qui vous a aidé aussi, jeune homme, à comprendre votre attirance pour les garçons.
James Baldwin. Another Country, un autre pays. Oui, mais les livres ont une immense importance dans ma vie. C'est vrai que le livre qui parle de voyage, comme On the Road, sur la route, Kerouac, mais le livre hollandais, évidemment, aussi. C'est vrai que... Enfin, j'ai compris après la quarantaine, il y a quand même déjà plus de 30 ans, que tout ce qu'on fait, surtout après la cinquantaine, c'est pour oublier comment ça se termine. C'est-à-dire par la mort. Ouais, donc, ça peut être faire l'amour, faire un bon voyage, manger, faire la cuisine, et lire aussi, c'est des oublis totaux. Et le meilleur des oublis pour un chanteur, c'est d'être sur scène.
Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment?
N'importe quoi, honnêtement. Vraiment, le dernier livre, ça peut être un article dans un hebdomadaire. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui me conseille un livre. Pour vous donner un exemple que je trouve assez incroyable, Patrick Sébastien avait fait une émission dans laquelle il fait un hommage à des femmes, de kidam, comme on dit, avec un peu de prétention. Et il y avait une institutrice, un prof, je ne sais pas, qui parle avec un tel amour de livre d'Albert Cohen.
Le livre de ma mère?
Non, j'ai un trou de mémoire pour le nom, enfin, avec Solal
Belle du Seigneur.
Voilà. Mais vraiment, j'ai dit, il faut que j'achète ce livre. Mm-hmm. Et j'ai lu 5 fois depuis. Et j'étais content de voir un reportage sur Albert Cohen qui disait que c'est un livre d'amour, parce que c'est quand même aussi un livre de haine, quoi. Et c'est des livres importants. Donc, avec une émission de variété, tu apprends à lire Belle du Seigneur, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Et donc, tout est rencontre, comme pour les recettes, d'ailleurs. Et c'est vrai que la lecture, ça te permet... Je ne peux pas m'endormir sans lire quelques pages avant de faire éventuellement autre chose.
Ni beau, ni seigneur, voici Daniel Morin.
Allez, mon Daniel. Oh la vache. Allez, mon Daniel. Oh, c'est bon, ça fait plaisir de vous voir, Dev. Déjà parce que je vous adore, et aussi parce que si vous n'aviez pas existé, j'aurais jamais cru qu'on pouvait vivre légalement avec juste un prénom, comme certains autour de cette table. Alors, je connaissais le chanteur, bien sûr, reste à découvrir Le Cuisinier, et quelle surprise, quelle belle surprise que ce livre de recettes, c'est tout en simplicité, tout en délicatesse, tout
non,
en touché.
Non, mais arrête, Dany, j'en peux plus.
Qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Philippe Manœuvre?
Non, mais là, depuis le début de ta chronique, tu enchaînes bullshit sur bullshit, Dany. Dave, je le déteste. Fuck the fucking fuck, ça rime à quoi de faire un livre de bouffe quand t'es chanteur? C'est bullshit. Est-ce que Paul Bocuse, il a fait des disques?
Non.
Eh ben voilà, chacun sa spécialité. En plus, si le Dave, il cuisine comme il chante, putain, ça va être immangeable.
Oh, Jean-Philippe?
Yes.
Vous voyez la personne à côté de vous?
Ben oui.
Vous savez qui c'est?
Ben c'est toi, connard.
Non, de l'autre côté, à votre droite.
Oh putain! Sweet motherfucker Dave!
Eh ouais, c'est lui!
Oh my god, Dave! Oh non, mais je vous adore, vous savez!
Ah ouais, alors maintenant vous aimez Dave, Jean-Philippe?
Non, mais attends, Dany! Dave, c'est la base du rock! Dans l'histoire de la musique, il y a Mick Jagger, Roberto Alagna et il y a Dave. Écoute-moi ça. C'est du 100% talent ce truc. Il y a l'émotion du souvenir, il y a la nostalgie des filles vierges, c'est de l'écologie sentimentale, c'est puissant comme du C. Jérôme, c'est viril comme du Vianney, c'est fou comme du Ariel Dombal, c'est un génie ce mec.
Ah, c'est vrai que c'est bien.
Et puis attends, il y a le chef-d'œuvre. Là, là, tu touches au sublime, au sublime. Non mais rends-toi compte, Dani. Vanina, un prénom à la con, il en a fait un hymne à l'amour. Moi, en écoutant Vanina, j'ai déjà fait l'amour à des trucs improbables.
C'est vrai ce que vous dites, Jean-Philippe, c'est une belle analyse.
Et puis, il y a ma préférence. Non mais, la mélodie. La mélodie, mec. Fuck the fucking fuck.
C'est vrai que ça donne envie de flirter tout en douceur.
Mais t'as rien pigé.
Quoi?
Ça donne envie de douceur, ok, un peu. Mais je le connais, le Dev, c'est un pervers. Après la douceur, arrive le chaos et le sexe hardcore. Moi, en écoutant cette chanson, j'ai eu des envies de changement de sexe et d'amour multiprise.
Oui, mais peut-être, mais est-ce que vous pensez que Dev fera un bon cuisinier?
Ah mais ça doit être un virtuose.
Voilà.
Ah mais grave.
Et ça vous donne envie, comme page 123, la recette de la banane écrasée au sirop de gingembre?
Ah bah dit comme ça, ça a l'air dégueulasse. Mais ça, c'est le génie des grands pervers.
Quoi donc?
Mais donner envie de goûter ce qui au départ nous dégoûte.
Merci Jean-Philippe, à demain.
Merci Albert Azoulay.
Original, midi sur France Inter.
Cuisinez-moi Dave, le livre de recettes de Dave. Et à propos de cuisiner les autres, est-ce que vous avez eu l'idée ou l'envie de le faire à la télé ou à la radio, puisque cette carrière d'animateur que vous avez reprise, ou de même jurer dans des c'était incroyable talent dans lequel
talent,
vous étiez, vous a donné envie d'être intervieweur, d'écouter les autres, de leur poser des questions, de les cuisiner justement.
Ah, poser des questions à cuisiner à la rigueur, mais en tout cas pas faire la cuisine à la télé. Je l'ai fait pendant une semaine.
Non,
là,
non,
pour...
non, je parle pas de la cuisine à la télé. Je parle d'interview, ouais. De talk.
Ah, bah l'interview, j'adore, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est très, très intéressant. Mais c'est beaucoup de boulot quand même. J'ai fait un petit peu de radio sur vos confrères d'Europe 1 et je me suis rendu compte que c'est presque plus de travail quand il n'y a pas d'image, quoi. Mais j'ai bien aimé ça, c'est vrai. Et non, j'aime l'échange, comme dans la cuisine justement. Donc c'est vrai que les vies de n'importe qui est intéressante. Tout dépend comment on le raconte. Moi, je me souviens quand je faisais des croisières et que les vieux venaient, parce que c'était des gens que je trouvais très vieux à l'époque et aujourd'hui mon âge, donc je suis pas si vieux que ça. et c'est formidable, quelqu'un qui raconte sa vie.
Oui. Vous dites beaucoup, c'est beaucoup de travail. Or, s'il y a bien une école du travail et de la précision et de la fidélité, c'est la cuisine. On ne peut pas se permettre de trop cuire ou de pas assez cuire, de changer les proportions. Il y a beaucoup de ratés avant d'arriver à la réussite et à la perfection. Donc ce n'est pas le travail qui vous fait peur. Et
ah chaque non, fois, non, vous... bien au contraire.
Non, mais bizarrement, quand vous parlez de la radio, de la télé ou même d'aller chanter, vous dites oh non, c'est beaucoup de travail.
Non, mais la différence entre la radio et la télé,
c'est fainéant,
que moi, je ne sais pas déléguer. Donc, c'est-à-dire, j'ai déjà fait des télés, là, je citerai vraiment pas de nom des personnes qui m'ont interviewé au sujet de plusieurs livres que j'ai fait, et c'était évident qu'il ou elle ne l'avait pas lu. Et donc, ça, c'est emmerdant. Tandis que quand t'as affaire à quelqu'un.
Sauf que vous ne savez pas ne pas le dire ou ne pas le faire remarquer quand vous êtes, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Donc vous
non,
le dites.
Mais quand tu fais de la promo, tu le, tu restes calme quand même.
Faut faire semblant.
Oui. Mais, non, mais j'ai vu Dupontel, je me souviens de sa portée parce que le mec savait pas de quoi il parlait, ouais, et j'ai trouvé qu'il avait
c'était un journal. Alors, il y a deux écoles, c'est-à-dire qu'à la fois Dupontel s'est légitimement énervé parce que le journaliste n'avait pas vu le film, et à la fois le journaliste a été très honnête en disant « je ne l'ai pas
c'est
vu ». Donc est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'être honnête, c'est une chose, de ne pas avoir fait son travail, c'est un autre problème, mais il a eu...
Mais faute avouée moitié pardonnée, mais il reste l'autre moitié.
C'est ça. C'est ça. Et quelles sont vos envies aujourd'hui? Donc il y a ce nouvel album produit par Renaud, qui est devenu producteur d'ailleurs. Comment? Parce que c'est un voisin de L'Île-sur-la-Sorgue?
C'était un voisin et c'est devenu, je dirais, un ami. Et c'est drôle parce que, évidemment, il est là depuis 30 ans, moi depuis bonne vingtaine d'années. Et quand on se croisait, ben, on s'est dit bonjour parce qu'on savait qui on était mutuellement. Et puis un jour, quelqu'un l'a traîné dans un concert de bienfaisance que je faisais dans un village à côté. parce que je m'occupe des chiens pour des enfants aveugles, et il était dans la salle, il est venu, il a oublié, mais il est venu dans la loge, il me dit, mais t'es un clown musical, toi. Et ça m'a beaucoup plu, parce que je trouve ça bien d'être un clown musical. Et après, c'est, nos rapports se sont améliorés, on va dire, en tout cas. Ils sont devenus plus intéressants, on bouffe régulièrement ensemble, on se voit à Paris ou là-bas, quoi.
Et quelle est l'explication ou le rôle du producteur, Renaud? C'est de vous mettre en contact avec des paroliers, des musiciens, des compositeurs. Non, vous n'en avez pas besoin.
Non, c'est purement pécuniaire. C'est-à-dire que j'avais un producteur qui était complètement pas dans le métier. Et quand j'ai gentiment remercié, et Renaud savait où, comment il fallait le faire. Il m'a mis dans les mains de quelqu'un qui bosse avec lui, qui s'appelle Thierry Geoffroy, et qui est d'ailleurs en train actuellement de s'occuper de son nouvel album de Renaud. Il fait 5 chansons sur cet album. Et Thierry Geoffroy a quand même écrit une belle chanson, par exemple, Il y a trop de gens qui t'aiment, d'Hélène Segarra, c'est une chanson qui est de lui. Il en a fait plein d'autres, même pour Barbara Streisand. Mais c'est, et donc, c'est un peu son équipe avec laquelle je bosse aussi. Mais c'est en effet surtout, comme disait Cocteau, l'épreuve d'amour, c'est aussi de donner et donne.
Est-ce que c'est aussi avec son oreille? Est-ce qu'il est venu en studio? Est-ce qu'il a écouté? Est-ce qu'il vous a donné des conseils?
Il a donc entendu La fille aux deux papas et ça a donné envie d'écouter le reste. C'est comme ça que ça s'est fait.
La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer.
La fille aux deux papas, qui est bien loin d'une fille à papa, justement. L'argent est très présent aussi dans votre livre, pour revenir à Cuisine et moi, que ce soit d'ailleurs dans votre rythme de vie, dans votre manière de dépenser l'argent, d'aller dans des lieux où le show business est là, et on imagine le caviar à la louche, et comme disait Coluche, il n'est pas meilleur avec une louche, pourquoi le mange-t-il comme ça? Mais vous
250
avez...
francs, je crois, les 125 grammes.
Hein. Ah, les Matignon, qui était le boîte à la mode à l'époque.
Ça, ouais, qui était le Robert de Bouvier. Hein, qui était, c'était lui le neveu de Jacqueline Maillan.
Oui, qui était là directeur, à ce moment-là directeur de la salle. Mais...
Non, c'est, ou c'est... le tout Paris, le tout showbiz du monde d'ailleurs.
On a des souvenirs formidables dans cet endroit-là. Et c'est aussi à cette époque-là que quand je voyais des gens de plus de 60 ans, que je les trouve un peu pathétiques. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'y aller. Parce qu'il y a un moment, il ne faut plus aller en boîte.
Mais ça n'existe plus, ces adresses où tout le monde se réunit, où on peut croiser aussi bien Mick Jagger. Enfin, le Mick Jagger d'aujourd'hui, je ne sais pas.
Oui, mais ça a été les bains, ça a été le baron. Il y a toujours des endroits qui arrive comme ça, ouais. Que moi je ne connais pas, hein, parce que je n'y vais pas. Mais, donc il y a des restaurants, on peut se retrouver entre nous, on va dire. Mais c'est vrai que...
Entre nous, entre-soi, c'est gens du métier, c'est ça?
Oui, c'est ça, plus ou moins. Parce qu'on fait que se croiser, parce que tout le monde vit à 200 à l'heure. Et là, on a un moment pour se... Moi, je me disparais entre Polanski et Johnny Hallyday, c'est vrai. Je me pinçais même à moi-même en disant, mais qu'est-ce que tu vis là, tu vois?
Alors ça, c'est du name-dropping de gens connus. Mais ouais. Si vous aviez un repas à faire avec... Les meilleurs convives, il y aurait qui alors? Des gens connus ou des amis inconnus?
Ben,
du grand public.
Si je ne le connais pas, je peux savoir si j'ai envie de me dîner avec.
Non, inconnu du grand public.
Oui, c'est bien compris. Ah non, mais moi, là, je vais dîner. Il y a quelqu'un qui m'a amélioré un petit peu la petite maison que j'ai donc louée, là, et que je trouve très intéressante. Donc, c'est des questions de rencontre. J'ai deux amis connus que sont Marc-Olivier Fogel et Daniel Auteuil. Donc, je le cite parce que les gens savent de qui je parle. Mais ce n'est pas le plus important de ma vie. Mais. Mm-hmm. Ils sont très importants, parce que le mot ami est un mot très important.
Mais Marc-Olivier Fogel, on l'apprend dans le livre, je ne suis pas sûr que vous l'ayez beaucoup raconté, vous a, entre guillemets, pratiquement sauvé la vie.
Sa sœur, oui. Enfin, on peut dire directement, indirectement.
Indirectement lui, puisqu'il vous a au téléphone, vous n'allez pas très bien, vous avez une petite douleur au bras, comme une petite insuffisance cardiaque, et sa sœur est cardiologue.
Ouais, elle m'a envoyé à l'hôpital et j'avais
le
coronaire à 90% bloqué, je serais mort à l'été, parce que c'est juste avant la tournée d'été. C'est vrai que je savais pas que sa sœur qu'elle était médecin, mais pas cardiologue, et donc je le vois tous les 6 mois pour vérifier. Mais c'était, je dirais, le prof qui m'a opéré m'a donné une garantie de 25 ans en me disant que j'allais mourir seulement d'autre chose avant, mais pas de
Cuisinez-moi, c'est plutôt du carpe diem. Il n'y a pas beaucoup d'alcool, hein. Il n'y a pas beaucoup de vin, il n'y a pas beaucoup...
Il y a eu beaucoup dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai...
Non, je parle dans les recettes que vous donnez.
Ah
vous,
non,
vous
mais quand je fais ça à la manche, je vais entre 10 et 15 calvados pour se faire, parce qu'on m'avait dit que c'était le trou normand, donc je croyais que ça faisait maigrir, mais c'est pas vrai.
C'est un gouffre normand.
C'est un gouffre.
Oui, avec le système d'en avoir 10 de chaque côté, de se rejoindre au
milieu.
Faire la shot et de se rejoindre au milieu, c'est
je
ça.
Je ne conseille à personne.
Non, mais absolument. Cuisinez-moi, Dave, c'est au Cherche Midi, le livre de recettes, mais vous l'avez compris aussi avec beaucoup de d'humain, parce que la cuisine, c'est quelque chose qui est vivant et qui est très humain et qui est dans le partage. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour le végano, végétano, bobo, mégalo, escroc, enfin Nagui quoi, qui s'est retrouvé à parler de rognon, de foie, et surtout de cervelle. À ça, Nagui, quand il connaît pas, il aime pas. Désolé pour le fisc français, administration que je respecte, qui a été choqué par la défense de la Manche et du travail au noir de Dev. C'est vrai qu'avec Nagui, ça faisait une belle émission de délinquants fiscaux. Désolé pour notre expert, Jean-Pierre. Ben c'est demain ton anniversaire pour Jean-Pierre Pasqualini, qui a découvert ce matin qu'il était ruiné. Eh ouais, quand il a demandé à Nagui l'autorisation de rediffuser Taratata sur sa chaîne de télé Mélodie. Oh, ça va, vous savez, Nagui, il accepte aussi les reins et les dents en or. Et désolé pour nos auditeurs qui nous ont dit qu'entre les questions incompréhensibles de Nagui et les réponses qu'on ne comprenait pas non plus de Dev, ils avaient écouté la meilleure émission depuis la création de la bande originale. C'est vrai que ça fait du bien, mais je suis sûr que sans le son, ce serait peut-être encore mieux.
Voilà, et moi, désolé pour Kerkem que j'embrasse et qu'un immense talent.
Une jolie fille, elle joue, très bonne comédienne
et bonne chanteuse. Voilà, ouais. Comme ça, tout est dit. On sera demain avec Andrea Bescon pour parler des Châteaux, très beau film qui sortira demain, mercredi 14 novembre. Merci Dave d'avoir été notre invité. Bonne route et bise à Patrick Loiseau. Cuisinez-moi, Dave. Je cherche midi. À suivre les carnets de campagne. De Philippe Bertrand,
oui.
Ça, Philippe.
Bonjour Nagui, bonjour les amis, je suis déçu.
Pourquoi ?
Bah, Dave a abandonné la langue de vipère. Ça veut dire que maintenant il avale des couleuvres ?
Oh, joli !
Tellement bon !
Joli !
Je sais pas si c'est digeste.
Non, je crois pas.
Non, je pense pas.
Essayons les légumes.
Oui.
Bonne journée.
Salut les amis.